Bonjour, bienvenue à CFM Radio et bienvenue au cercle mensuel des lecteurs de Confluence. Nous allons aujourd'hui parler d'un livre de Didier Castino qui s'intitule « Après le silence ». Alors pourquoi le choix de ce livre ? C'est parce que Didier Castino, l'auteur de ce livre, va venir pour le festival Lettres d'automne, invité par Laurent Mauvignier. Le festival Lettres d'automne donc va commencer tout de suite, là, cette semaine, et va se poursuivre pendant 15 jours jusqu'au 3 décembre. Qui est, alors, pour parler de ce livre, il y a donc autour de cette table...
Jeannette.
Bonjour.
Allez.
Et moi, Jean. Didier Castino est un auteur qui est né en 1966. Il est professeur de lettres à Marseille et Après le silence est son premier livre qui a été publié aux éditions Liana Lévy en 2015, puis repris dans la petite collection de poche Piccolo en 2016. Il a fait paraître par ailleurs un autre livre en 2017, qui s'intitule Rue Monsieur le Prince. Le livre Après le silence a été salué par la critique et il a obtenu le prix du premier roman en 2015 et le prix Eugène Dabit 2015. Françoise, peut-être tu pourrais présenter le sujet du livre.
Oui. Alors, Après le silence raconte une difficile histoire de deuil, d'émancipation et de fidélité. Le dernier enfant de Louis Catella, ouvrier mouleur écrasé par un moule, n'a pas assumé la mort de son père, alors qu'il n'avait que 7 ans. Parce qu'on ne lui a pas clairement annoncé la mort de son papa, parce qu'on l'a tenu à l'écart des obsèques, parce qu'on lui a dit que, même absent, son père savait tout de ce qu'il faisait et de ce qu'il pensait, parce qu'on lui a brossé une image si idéalisée et si exemplaire de son père qu'il se sent indigne de lui. Il pense qu'il le trahit et il en souffre. Il dit « jamais serein, jamais en paix ». Pour toutes ces raisons, enfant et adolescent, il a cru que malgré le silence et l'absence de son père, celui-ci allait revenir. Et une fois devenu adulte et écrivain, il le fait longuement lui parler, comme si en usant de cet artifice de discours posthume, il voulait le maintenir en vie. À la fin du discours, cependant, ce discours inventé qu'il prête à son père, il est enfin capable d'admettre que ce dernier est mort, qu'il ne reviendra et ne parlera plus jamais. Et dans la dernière partie, il prend la parole à son tour, en son nom propre, pour parler après le silence du père, pour s'émanciper de sa tutelle. Il le fait d'abord avec rage et provocation. « Je ne suis pas ouvrier et je t'emmerde », dit-il à plusieurs reprises. Puis avec plus de sérénité, car dans son autonomie proclamée et revendiquée, il a découvert qu'il était d'une certaine façon fidèle à son père. C'est une phrase tirée de la dernière page. Nos différences éclatent, mais ce n'est pas trahir, tous deux de la même famille.
En fait, le livre joue sur la surprise du lecteur. Le lecteur, au début, ne comprend pas tout de suite qui est la voix qui parle et qui dit « tu ». Et au bout d'un long moment, il va comprendre que c'est le fils qui fait parler le père. Et ce procédé, je trouve, donne beaucoup de force au livre. Pendant les 3/4 du livre, c'est la voix du père reconstituée. Et puis, le fils, dans la dernière partie, va prendre la parole directement en disant « je ».
Oui, et entre les deux, il y a un petit dialogue entre le père et le fils. Et le père dit à son fils « si tu veux parler, parle, mais ne parle pas à ma place ».
Oui.
Et c'est ce qui amorce la parole du fils dans la dernière partie.
Donc, en apparence, on a deux monologues, mais en fait, une seule parole, celle du fils, qui reconstitue toute l'histoire de sa famille, d'une certaine façon.
Oui, Jeannette. Je trouve que le fait que le fils fasse parler son père, ça nous a paru très intéressant, parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas beaucoup de livres aujourd'hui sur la classe ouvrière. Et le fait que ce soit le père qui, en quelque sorte, parle de sa vie d'ouvrier, ça rend les choses plus vivante. Enfin, il raconte l'usine, il raconte la chaleur, il raconte le bruit, il raconte la fatigue. Il y a tout ça. Et en même temps, les corps sont beaux.
Oui. Ce livre, en fait, il traite, en fait, du moins dans plusieurs passages, le corps de l'homme au travail. Et moi, ça m'a évoqué des choses, déjà, par rapport à ma propre histoire. Mon père, qui était aussi ouvrier agricole, et que j'ai vu dans des travaux très pénibles. Et là, je vais vous lire quelques lignes où le personnage principal, donc Louis, évoque son travail, quoi. Ma peau brille sous l'effort. Étouffant sous la chaleur de l'acier, la chaleur de juillet, j'abandonne le haut de mon bleu, en ouvre la fermeture éclair dorée, laissant choir par ce geste bras et dos amolli une chiffe molle tombant le long de mes cuisses. Mon buste ploie jusqu'à la limite, la colonne vertébrale surgit sous le blanc côtelé du débardeur. Les marques du slip se dessinent, mon front se ride et mes yeux se ferment. Le fils trouve que ça me va bien, le bleu comme ça, à mi-corps. Il trouve que ça fait jeune, il me trouverait presque beau. Il voit ainsi son père atteindre les parties les plus reculées du moule sans hésiter, attrapant à la première tentative ce que sa main est venue chercher. Je suis sur le moule, tout à lui donner. Des gouttes de sueur s'écroulent à intervalles réguliers sur la pièce, semblent frémir et s'évaporer sitôt atteintes la surface. Ça se poursuit encore sur plusieurs lignes. Et donc on voit cette toute-puissance de Louis au travail. Et en plus, on peut peut-être, sans dévoiler trop l'histoire, dire que cette toute-puissance apparaît un moment très crucial au niveau du livre, puisque ensuite, il va y avoir lieu un accident. Et c'est donc quelque chose qui m'a paru très important à ce moment-là de l'écrit.
Et on se disait...
On
se disait, en lisant cette description, qu'on avait... Ça nous faisait revivre ces statues ou ces affiches du réalisme soviétique, où on voit les ouvriers dans toute la force de leur... toute la force de leur courage et puis de leur espoir dans un avenir qui chante, enfin. Et alors, on pensait que, pour illustrer ça, une chanson de Bernard Lavilliers qui s'appelle « Les mains d'or » serait bienvenue, même si ça ne fait pas partie, Bernard Lavilliers, des chanteurs que la famille écoute. On vous en fera écouter d'autres, mais la famille écoute Brel, Ferrat, Brassens, surtout Ferré, voilà. Mais écoutons Lavilliers.
Mais aussi Claude François.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit. Vieux château fort, bouffé par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc. les marais, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Donc, vous êtes bien au cercle de lecture de Confluence et nous sommes en train de parler du livre que nous avons lu récemment, le livre de Didier Castino, Après le silence. Je rappelle donc que Didier Castino est invité par Laurent Mauvignier, l'invité principal du festival Lettres d'automne, et il sera à Montauban le mercredi 29 novembre. À 19h au théâtre. Ce qu'il y a eu aussi d'intéressant quand nous avons discuté de ce livre, c'est que il s'est passé quelque chose qui ne se passe pas d'habitude lorsqu'on discute d'un livre. Chacun a eu envie de raconter sa propre histoire. C'est-à-dire que ce livre renvoyait chacun à l'histoire de sa famille, finalement, l'histoire qu'il avait vécue, ses relations avec ses parents. Bon, bien sûr, ceux qui sont un peu plus âgés se souvenaient des années 60, 70, voilà. Donc, il y a eu une sorte de, on pourrait dire presque, thérapie de groupe à la suite de cette lecture. Je pense que vous êtes, enfin, vous avez, tout le monde a ressenti cette impression.
Et Jean, toi, tu t'es souvenu de la Deux Chevaux?
Et moi, je me suis souvenu, oui. Enfin, il y a un passage dans lequel il raconte les voyages avec ses parents, plus les trois enfants dans la Deux Chevaux. Et avec l'enfant qui doit s'asseoir au milieu, qui ne veut pas y être parce que il va avoir la barre dans le cul. Et bon, ça rappelait des voyages en famille.
Beaucoup. Beaucoup de ceux qui étaient
là. Voilà. Oui. Donc il y a aussi ce côté, bon, c'est pas un livre, c'est un livre grave, hein, c'est un livre sérieux, mais en même temps, c'est un livre qui, dans lequel aussi on peut prendre du recul et dans lequel il y a des passages qui font rire.
Alors, moi, j'en reviens à un passage moins drôle, mais que j'ai trouvé très, très intéressant. C'est après la mort du père, la mère, Rose, qui était une femme pleine d'énergie, d'allant, enfin, qui était mère au foyer, qui n'avait pas de travail à l'extérieur, tout d'un coup va vraiment sombrer debout, parce que ça ne se voit pas trop. Enfin, je veux dire, elle fait tout ce qu'il y a à faire. Elle ne se s'offre pas une déprime, elle fait la cuisine, elle s'occupe de ses enfants, mais elle est complètement ailleurs. Et elle va, devenir la gardienne du temple. Enfin, il y aura pas qu'elle à être la gardienne du temple. Peut-être tout à l'heure on parlera des copains syndicalistes. Mais en tout cas, elle va considérer qu'il n'y a qu'elle comme référence pour ce que le père a été, y compris dans les plus petits détails. Par exemple, à un moment donné, elle dit que votre père était grand et très grand et beau. Bon. Et le fils, beau, il peut pas trop le vérifier, mais grand, il s'aperçoit que son père mesurait 1m69, ce qui n'est pas gigantesque. Et quand il dit à sa mère, papa mesurait 1m69, la mère presque le nie. Enfin, non, votre père était grand. Voilà. Et alors, un peu pour vous donner une idée, si vous voulez, de cette façon dont la mère s'érige en gardienne, je vous lis un petit extrait. C'est là tout son rempart. Sa forteresse imprenable. Qu'on ne touche surtout plus à moi. C'est terminé, il n'y a qu'elle qui sait. On ne parle pas de moi librement. Elle y veille. Ce qu'on dira de moi ne sera que redite et succédanée. Il n'y a rien qui lui ait échappé. On ne peut pas dire n'importe quoi sur moi. Obligé de rectifier ou de commenter ce qui se dit pour rendre au plus juste ce que je suis et ne pas laisser croire ce qui ne s'est pas réellement passé. Alors, outre cette histoire de la taille du père, il y a aussi un autre passage qui est assez rigolo, mais je crois qu'Alain, tu en parleras, de la pêche à la truite. Moi, je ne suis pas une spécialiste, et toi, tu sais ce qui se fait dans la pêche à la truite. Mais il y a aussi tout l'aspect syndicaliste du père et les ouvriers qui vont aussi chanter ses louanges. Et il le mérite quand même, de ce point de vue-là.
C'est pour cela que ce livre aussi est intéressant, quand on essaie de transposer avec ce qui se passe aujourd'hui. On voit ce passage, Louis donc est représentant syndical, et à la suite d'une exclusion de 3 ouvriers, il va pouvoir mobiliser une partie des ouvriers de l'usine, il va y avoir une grève, quoi. Il va être exclu, mais compte tenu de la pression de tous les ouvriers, il va pouvoir être réintégré dans son travail. Et cela se passait dans les années donc 70. On voit tout le chemin parcouru, je ne sais plus dans quel sens vers aujourd'hui, mais on est loin de tout ça aujourd'hui quand on parle de ces mobilisations, et c'est là qu'on voit la force de cette période et la force du mouvement syndical à cette époque-là, quoi.
Et la pêche à la truite?
Alors, la pêche, oui, on se posait la question. Oui, ça existe à certains endroits. Les gens, c'est carrément du braconnage, mais à grande dimension, c'est-à-dire mettre du javel dans l'eau. Pour carrément empoisonner les truites et pour pouvoir les pêcher plus facilement. Et c'est une pratique, enfin, qui n'est pas monnaie courante, je pense, mais qui existe, puisque là, c'est abordé. Et donc, du coup, quelqu'un qui serait un pêcheur très moyen, eh bien, par ce biais-là, il peut avoir une certaine auréole, voilà, à ce niveau-là, mais c'est complètement illicite.
Et quand on raconte cet épisode, la mère essaie de prendre la défense du père en disant « Mais non, il n'a versé que quelques gouttes dans l'eau.
Oui. » C'était pas très grave.
Quelques gouttes qui sont suffisantes pour faire
alors
le dégât.
Alors que c'est une monstruosité écologique, mais le père, là, s'en soucie guère. Hein, c'est pas de l'époque.
Il y a aussi un aspect dans la vie de la famille là qui est un peu moins glorieux, et la mère aussi là-dessus elle étend un voile pudique. C'est le fait que quand même dans les réunions de famille ça picole sec et j'emploie volontairement le mot picoler parce que c'est ça, et il y a le frère aîné du père qui lui carrément est alcoolique, enfin l'oncle Henri.
Donc ce livre, il est d'une grande richesse parce que c'est à la fois un témoignage donc sur toute une période de l'histoire du mouvement ouvrier, hein, et de la vie dans les usines, mais en même temps c'est l'histoire d'une sorte de règlement de compte entre un père et un fils, et le fils, d'une certaine façon, il se demande s'il doit avoir honte d'avoir changer, enfin de ne plus faire partie de la même classe sociale, catégorie sociale que son père. Et de ce point de vue-là, ce livre s'inscrit dans peut être comparé à d'autres livres qui traitent aussi de ce problème. On en a parlé ensemble. Il y a le livre d'Annie Ernaux qui s'intitule « La place ». Et aussi un livre dont Didier Castino dit qu'il a eu une grande importance pour lui. C'est un livre de Didier Ribon qui s'intitule « Retour à Reims ». Dans les deux cas, les livres, ces livres évoquent cette espèce de gêne qu'éprouve un fils ou une fille d'avoir, d'une certaine façon, trahi sa classe sociale. Et de ce point de vue-là, il y a un passage qui me paraît très parlant de ce point de vue-là. Mais il faut que je le retrouve.
Et en attendant que tu le retrouves.
Donc, en attendant,
oui, j'ai envie de dire, ça nous a surpris que le fils se sente un peu traître en ayant échappé lui-même à la classe ouvrière, puisqu'il est devenu professeur. Parce que finalement, le père lui-même, qui regrettait de ne pas avoir fait d'études, sur le tard, se met en tête de passer son certificat. Donc manifestement, dans la famille, il y a quand même le désir que les enfants, par les études, fassent une ascension sociale, entre guillemets. Oui. T'as trouvé ton passage.
Oui, mais on peut dire, là pour prendre la suite de ce que tu dis, le père respecte la culture. Et... quand sa femme aime lire et il lui achète des livres, mais il se fie uniquement au titre du livre. Il ne sait pas ce que sera le contenu du livre. Et ça, c'est un passage très touchant de ce point de vue-là. Oui, le passage que j'aurais eu envie de lire, qui montre donc comment le fils se situe par rapport au père et dans lequel il insiste sur les différences. Il dit ceci: « Je ne sais pas si je suis un homme. » Je ne comprends rien à la mécanique. Je n'imagine même pas remplacer une courroie de transmission par des collants de femme. Moi, si la voiture tombe en panne, je la gare sur le bas-côté. J'enfile mon gilet jaune, dépose un triangle rouge à 150 mètres de mon véhicule et j'appelle une dépanneuse. J'ai le fric pour ça. La voiture, je sais la conduire et c'est tout. Je ne demande rien d'autre. Et quand je dois faire un créneau, je cède la place à ma femme. C'est elle qui le réussit. Je ne carrelle pas non plus, je ne peins pas, je ne répare pas, je ne construis pas, je n'ai même pas les doigts d'or que tout homme, qu'a tout homme digne de ce nom. Donc les doigts d'or, ça nous renvoie aux mains d'or de Lavilliers, justement.
Mais il interroge bien aussi, à travers ce qui vient d'être dit, sur le thème principal du festival cette année, c'est-à-dire le devenir.
Oui.
Qu'est-ce qu'on devient à partir du déterminisme social qui pèse sur chacun de nous, du déterminisme psychologique et des choix? Est-ce qu'on va consentir? Et c'est tout ça, on le voit, surtout notamment dans la dernière partie, les réflexions du fils et notamment ses prises de position politiques qui paraissent à contrario, ou même celles de la classe ouvrière, ce qui évoque la classe ouvrière à contrario de ce qui pouvait se produire il y a 40 ans, quoi. Donc ce thème-là, c'est pas quelque chose d'établi, hein, ça se construit au fil des années, et c'est la richesse, elle est là aussi, quoi.
Mais là, le fils s'insurge contre l'image de l'homme idéal qu'a voulu fabriquer le père. Hein. Pour le père, pas savoir réparer la voiture, pas savoir bricoler, c'est une honte. C'est pas digne d'un homme.
Et on peut faire une autre petite interruption avec un chanteur cher à la famille, Jacques Brel, qui nous chante Jaurès.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, rêve de la dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Voilà, donc vous êtes bien sur CFM Radio et nous sommes en train de nous entretenir à propos d'un livre de Didier Castino qui s'intitule « Après le silence » dans le cadre donc du cercle de lecture de Confluence. Donc ce livre a certainement un arrière-plan autobiographique, mais lorsqu'on pose la question à Didier Castino, il répond que ce livre, il n'est pas vraiment autobiographique, mais que c'est plutôt du vécu transformé. Donc, du vécu transformé, il y a quand même une part de vécu. Et puisque nous le rencontrerons, Didier Castino, nous pourrons lui poser la question. Je ne sais pas
s'il y avait une autre question qu'on s'était posée. Parce que, justement, cette présence du père comme une espèce de génie tutélaire ou de génie pesant, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut dire, on s'était demandé si il y avait un aspect consolateur dans cette présence du père.
Oui. Mmh. Il y a des interviews très éclairantes de Didier Castino sur YouTube et il dit très précisément à propos du but du livre, il dit que ce n'est pas un livre pour rendre hommage, c'est pas un livre pour témoigner, mais pour lui le plus important c'est l'histoire de l'affrontement père-fils. Mais donc Alain, tu voudrais préciser aussi?
Oui, par rapport à ce que disait Jeannette sur la vertu ou la fonction consolatrice que pouvait avoir ce livre, il m'a semblé qu'à certains passages, du moins tout au long du livre, on retrouve des indices qui feraient dire que oui, ce livre, même s'il évoque beaucoup la mort, l'absence, la perte, que ce soit sur le plan de la disparition des personnes ou bien ou sur la disparition même des idéologies ou de l'idéologie qui était vraiment celle de la classe ouvrière qui avait une forte représentativité. Il semble qu'il y ait des indices tout au long du livre, alors j'en cite quelques-uns. C'est très matériel ce qu'a cité Jean tout à l'heure, l'ami 8 qui restera, elle ne sera pas à la casse, elle sera enterrée. Donc il y a cette trace qui va rester de cette voiture qui a été la voiture de la famille, mais quelque chose peut-être de plus intime au niveau des personnes. On le voit ensuite, la présence redoublée du frère de Louis, Henri, qui rend tous les autres, qui rend Louis présent aux autres. Donc j'ai noté page... Dédication. Lui sait, c'est bien suffisant, et il vit de ce qu'il sait et qu'il garde. Il devient ainsi, non pas celui qui s'épanche sur le bon vieux temps, nostalgique, mais le détenteur principal de tout ce qu'on a perdu, unique dépositaire officiel de la mémoire familiale. Sa présence est la seule à ouvrir tous les possibles, on a tout à apprendre à rester à ses côtés. Ouais, ça se poursuit sur la même tonalité. Ensuite, on voit aussi Louis qui parle de notre personne, de ses amis. Alexandre qui dit « Par ma mort, je me suis senti lui enseigner quelque chose. » On trouve ça. On trouve également « Et ce qui a suivi, c'est beaucoup lui, moi planant au-dessus de vous, ne vous laissant jamais en paix. » Une autre phrase également, « Des hommes debout pour qu'existe encore celui qui vient de mourir. » Donc ces phrases-là conduisent à dire, du moins c'est ce que j'ai ressenti moi-même, que ce livre pourrait avoir cette fonction finalement de consoler de plusieurs pertes, et de dire que finalement, alors là je fais un lien avec le philosophe Spinoza qui a des longs passages sur la différence entre l'immortalité et l'éternité. Eh bien là, oui, les hommes ne sont pas immortels, mais par rapport à tout ce qui reste, et la littérature, elle est bien là pour l'activer, eh bien, il y aurait cette fonction un petit peu d'éternité qui reste pour tous ceux qui continuent à vivre, quoi.
Et l'autre chose aussi qu'on n'a pas évoquée pour dire que quand même, cet enfant qui s'est retrouvé très jeune, sans père, et qui en plus a souffert qu'on ne le lui ait pas dit, va quand même pouvoir se construire grâce à la solidarité autour de cette cellule familiale, parce que les copains syndicalistes ne les laissent pas tomber, la famille ne les laisse pas tomber, et il cite en cours de route tout un tas de pères de substitution, oui, qu'il va avoir. Alors, il y en a un dont je trouve que le portrait est magnifique, c'est celui du médecin de famille. Oui. Le médecin de famille qui vraiment, le docteur Massy, qui fait plus que venir signer des ordonnances, qui donne des conseils, et il est écouté, la mère l'écoute quand il lui dit comment vivre, enfin comment essayer de faire son deuil. Les fils écoutent. Il y a Alexandre dont tu parlais, là, qui est un ami du père, je crois qu'ils se sont connus dans les manifs de mai 68, et qui est professeur et qui va assurer auprès du fils, celui qui écrit l'histoire, ce rôle de précepteur presque et puis de guide.
Il y a aussi, dans ce que dit Didier Castino, là, dans ses interviews, une explication très intéressante, une réponse très intéressante à la question qu'on lui pose à propos du sens du titre, « Après le silence ». Il dit que ce titre a, pour lui, une double signification. Bien sûr, c'est le fils qui se met à parler après le silence du père qui a été écrasé, mais c'est aussi le silence des usines fermées. Et là, il fait une réflexion tout à fait en relation avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que les anciennes friches industrielles, les anciennes usines, deviennent très souvent des lieux culturels et donc changent complètement de sens. Et lui, il s'insurge un peu contre ce fait que les usines, les lieux dans lesquels ont vécu les ouvriers, ont souffert, etc., changent, enfin, que ces lieux changent de signification. Donc ça m'a paru intéressant. Il insiste aussi beaucoup sur l'importance du silence en musique. Et il dit que le silence en musique, il a une signification très forte, que c'est le silence qui fait entendre et qui est porteur d'espoir aussi.
Alors peut-être un petit extrait justement sur les friches industrielles qui deviennent, oui, des lieux de culture. Non, les usines ne sont pas des lieux culturels. Si elles ferment, il faut les détruire, tout raser ou les transformer en lieux de mémoire, comme les camps de concentration. Raconter, après le silence, ce qui s'est passé pour que les jeunes sachent, pour que jamais on n'oublie. Organiser des visites scolaires avec des professeurs qui expliquerait l'activité industrielle avec des guides qui feraient visiter les différents ateliers, les différentes chaînes et les douches. Des guides, des spécialistes qui montreraient les ponts roulants et les moules, qui établiraient, pour mieux faire comprendre, des équivalences de poids et de taille.
Louise, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense à la chanson de Lavilliers tout à l'heure, sur les mains d'or, où on voit quand même, à travers le texte de Lavilliers, c'est la nostalgie d'une période, là, je voudrais travailler encore, quand il dit dans le refrain, c'est la nostalgie d'une période où il y avait le plein emploi, pendant l'époque où se déroule le livre dont on parle aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a peu d'interrogations sur le devenir du travail. Les gens travaillent et ils se questionnent pas trop, même sur ce qui va se passer ensuite. Et si ça existe plus par rapport à ce qu'on vient de dire sur les lieux, les usines qui se sont transformées en lieux culturels, peut-être que la chanson, encore certaines chansons, on dirait la chanson entre guillemets engagée, elle peut rappeler aux jeunes aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 20 ou 30 ans. Et c'est peut-être la force de la chanson de Lavilliers, elle est là, quoi.
Oui, il y a eu aussi, là, je me souviens maintenant, pendant notre donc en discussion au cercle de lecture, des personnes qui trouvaient que le fils, dans sa façon de régler son compte, ses comptes avec son père, était d'une violence un peu, enfin, incompréhensible ou insupportable. Mais je crois qu'il faut comprendre les choses autrement. Le fils, en voulant dégager son père de cette espèce d'aura prestigieuse, finalement en fait un être humain à part entière. Et cet être humain à part entière, il a envie de l'aimer tel quel, même avec ses défauts. Alors que l'icône prestigieuse, elle continuerait à l'écraser, comme le père a été écrasé lui-même.
Et justement, je tombe sur ce petit passage qui dit bien ça. Régler mes comptes avec toi, je ne sais pas si c'est possible. Foutre en l'air la rengaine, le mythe éternel. Parler après le silence. Je pense que ce contre quoi il se révolte, c'est pas tellement contre son père, mais contre ce que la saga familiale, cette idéalisation du père, oui. Voilà. Mais en même temps, peut-être que ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette vie était dure, mais en même temps, elle était fière. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette espèce de fierté d'être capable d'avoir cette force physique, cette endurance qu'avaient ces ouvriers. Et puis surtout, il y avait cette espèce d'espoir sur lequel il revient tout le temps, que enfin la gauche va venir au pouvoir, et il regrette qu'en 81, son père ne soit pas là pour voir l'élection de Mitterrand.
Alors il y a une autre particularité aussi qu'on a soulignée. C'est que à un moment donné, il fait parler le père, qui dit je crois au parti comme je crois en Dieu. Je crois que la vie peut changer grâce aux hommes. Et ça, c'est tout à fait aussi intéressant de voir que finalement les deux, comment on pourrait dire, idéologies, sont pas incompatibles.
Et d'ailleurs, dans le livre, il y a un prêtre ouvrier, donc la théologie de la libération, qui tient un grand rôle et qui, justement, travaille à l'usine parce qu'il pense que c'est là que se jouent les choses, enfin, que se joue l'humanité.
Et lors des obsèques du père, il y a un hommage à la fois, enfin, des références à Jésus-Christ, à la chrétienté et aussi aux luttes des classes.
L'international sera chanté lors de la mort du... de l'enterrement, hein.
C'est ça.
Mais par contre, oui, alors là, c'est un petit débat qu'on a eu pendant le cercle aussi. C'est, en fait, là, on voit cela, mais on sait bien, après, si on fait un rappel historique, que dans l'application de l'idéologie communiste, bien, dans certains pays, du moins, la religion était interdite, hein. Donc, on l'a abordé, ça.
Mais une personne, donc, qui a lu le livre et qui connaît très bien l'Italie, qui a vécu longtemps en Italie, disait qu'en Italie, ça ne posait aucun problème, que les communistes pouvaient aller à l'église, sans arrière-pensée.
Mais en même temps, quand même, dans le livre, il y a certains des copains du père, des copains syndicalistes et communistes du père, qui disent quand même, il nous aura obligés à aller à l'église, entrer dans l'église pour son enterrement. Oui. Alors on s'était dit qu'on aurait fini sur une note d'espoir, l'espoir qui a animé ce père, que la vie deviendrait meilleure, et on va écouter Jean Ferrat qui chante Aragon, un jour.
Donc c'était le cercle de lecture de Confluence qui aujourd'hui débattait à propos du livre de Didier Castino, Après le silence. Nous ne pouvons qu'inciter les auditeurs à lire ce livre qui est très riche à tout point de vue et qui, comme on l'a dit tout à l'heure, renvoie chacun à sa propre histoire, à la fois familiale et sociale. Donc, à bientôt, non pas au mois prochain, mais au mois de janvier.
Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents tourne la violence, Dieu le fracas que fait un poète contu. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Ah, je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi, toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi, toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles. Quoi, les bagues toujours et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles, au cadavre jeté ce manteau de paroles, le paillon pour la bouche et pour la main le clou. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.